Hier, journée mondiale de la Terre, on a failli passer à côté, dis donc, entre deux débats à l'Assemblée, trois crétins des Alpes et combien de tristes actualités. Pourtant, la journée de la Terre a presque 50 ans et c'est aujourd'hui le plus grand mouvement participatif en environnement. Alors vous me connaissez, si c'est l'occasion de diminuer notre impact, autant contribuer. Je voudrais parler du paradoxe du livre sur l'arbre. Vous savez, tous ces essais, ces beaux livres, romans ou BD, tous ces succès de librairie, à commencer par La vie secrète des arbres de Peter Vollenhoven, dont on vante les mérites à longueur de journée, sauf qu'à force de tirage et de retirage, voilà un livre qui risque fort de rendre la vie des arbres de plus en plus secrète. Plus d'un million d'exemplaires, de traductions dans le monde entier, des feuillets en veux-tu en voilà qui vendent ses mérites écolo-humanistes. Loin de moi de vouloir vous faire culpabiliser, mais le papier n'est pas toujours recyclé. Et ce texte à la gloire des arbres est fait de pattes de copeaux, de troncs et d'arbres coupés. Tu parles d'un crime de lèse-majesté. Pour un regard un peu plus bienveillant sur le tilleul de mémé ou le chêne du parc d'à côté, ben on est prêt à le couper.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui ne se contente pas d'écrire au sujet des arbres, il les dessine. C'est donc pas pour un nouvel album des aventures de Titeuf que je le reçois, mais pour The End, la fin en français, une BD pour adultes, mais pas interdite au moins de 18 ans, un thriller botanique où la nature se fait justice et qui sort dans 3 jours. Bonjour Zep.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci.
Est-ce que vous vous rendez compte que plus vous vendrez d'albums et plus vous ferez souffrir les arbres?
Ouais, ça c'est un paradoxe des auteurs. Mais c'est que maintenant on n'a plus besoin de tuer les arbres pour faire du papier.
Ah vraiment?
On prend que des branches, que les hautes branches, et donc puis bon, même le concept de tuer un arbre parce qu'on le coupe, on est un petit peu en train d'en revenir. On se rend compte que les arbres vivent ont une vie racinaire extrêmement grande, donc même si on coupe le tronc, l'arbre continue à vivre et il repousse.
Enfin, c'est quand même tendre le bâton pour se faire battre. Est-ce que vous ne craignez pas que les arbres se vengent, qu'ils se sentent trahis par vous qui prétendez les défendre?
Ouais, j'ai peur qu'ils lisent pas mes albums à la rivière.
Sans rire, pour quelle raison est-ce qu'il serait légitime que les arbres nous en veuillent? Je vous pose la question parce que les arbres ont le pouvoir de réguler l'espèce humaine dans le livre.
Alors je sais pas s'ils nous en veulent. En fait, moi je suis parti de cette anecdote incroyable que j'ai entendue à propos des koudous, donc ces grandes antilopes d'Afrique dans un parc qu'on a retrouvé mortes, et on a mis des mois et des mois avant de comprendre comment elles étaient mortes. Il y avait pas de traces de blessures, pas de prédateurs apparents, et on a compris après vraiment de longues recherches, et encore maintenant c'est un peu sujet à caution, mais c'est plus ou moins acquis par la communauté scientifique, que c'était les acacias, donc qui sont leur friandise principale, qui avaient tellement augmenté leur taux de tanin au moment précis où ils venaient manger, au moment du déjeuner, qu'ils devenaient mortels. Et donc, elles croquaient ces feuilles d'acacia, les antilopes mouraient, et immédiatement après, le taux de tanin redescendait. Et donc, quand on analysait les acacias, tout était normal, et on trouvait des bêtes empoisonnées autour.
N'empêche, c'est fascinant, parce que c'est l'idée d'une nature qui reprendrait ses droits. Et c'est un sujet qui a souvent été abordé, notamment en bande dessinée. Je pense tout de suite à Enki Bilal. Depuis quand est-ce que l'écologie s'est devenue un objet de préoccupation pour vous?
Ah bah c'est difficile que ça le soit pas. Enfin, on peut pas ignorer qu'on vit sur une planète et donc qu'on lui est un petit peu redevable. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a démarré avec le dessin, l'amour du dessin de nature. C'est-à-dire que j'aime dessiner les arbres. Et quand vous vous posez devant un grand arbre, que vous le dessinez comme ça pendant une heure, c'est pas possible de pas ressentir que lui aussi est en train de vous observer. Mmh. Donc il y a du vivant dans la nature qui est pas simplement
un échange de regards presque.
Voilà, alors c'est difficile parce qu'on a un déficit de vocabulaire, on est tout de suite bloqué parce que c'est comme quand on parle de l'intelligence des arbres, les gens disent oui mais les arbres n'ont pas de cerveau, ils ont pas de neurones. Non, certes, mais ils savent faire énormément de choses que nous-mêmes avons du mal à comprendre parce qu'on explique toujours ça par rapport à l'humanité. On dit ouais, alors comme nous les arbres sont reliés comme nous, ils communiquent comme nous, ils s'envoient des messages, mais comme nous effectivement, mais aussi bien au-delà, parce que les arbres arrivent à un pouvoir d'anticipation, ils savent ce qui va se passer à l'avance, et ils peuvent vivre quasiment éternellement, on le sait maintenant, si on les contraint pas, ils peuvent vivre des milliers, des dizaines de milliers d'années. Nous, on est loin de cette forme d'évolution.
Mais c'est intéressant ce manque de vocabulaire qu'on a, peut-être que le dessin peut pallier justement.
Je pense oui, que le dessin, en parlant beaucoup avec des botanistes qui m'ont aidé sur cet album, et notamment Francis Allais, qui est ce grand botaniste qui a mis au point le radeau des cimes, cette croisière sur la canopée, lui disait qu'il y a un vrai déficit de langage et il utilise souvent la poésie parce qu'il trouve que c'est une manière de s'approcher de cette vie étrange des arbres, alors qu'il dit le langage scientifique, il a tendance à réduire et en fait on est tout le temps en train de dire des choses qui sont un peu fausses.
Et puis il y a aussi quand même une présence au monde chez vous depuis toujours, un lien très fort à l'actualité que vous suivez dès les premiers albums de Titeuf au début des années 90, il y avait un peu de ça, des personnes personnages ancrés dans le vrai monde. Ça manquait, ça, à l'époque?
Pour moi, ça manquait, ouais. Je trouvais que la bande dessinée était restée repliée sur ce qu'elle appelait son âge d'or, qui était les années de l'après-guerre, avec effectivement de très très grands dessinateurs, Franquin, Robat, Maurice, Peillot, enfin toutes ces grands auteurs de l'école belge. Mais en même temps, moi j'arrivais dans les années 80, fin 80, début 90, et ça me faisait mal de voir une bande dessinée qui continuait à raconter une société de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on montrait encore papa au travail qui rentrait, maman qui faisait le repas. C'est juste si on n'avait pas les allumeurs de réverbères, il y avait le livreur de l'air, enfin il y avait toute cette imagerie qui était complètement tirée des années 50, mais tirée de ces grands albums de bande dessinée. Et les gens de mon âge qui n'avaient pas vécu cette époque le dessinaient parce que ils le dessinaient par mimétisme
avec
la
bande
dessinée ou par hommage. Et je trouvais un peu con que la bande dessinée s'empare pas du monde contemporain.
Et ça dit quelque chose de votre conception de ce métier, de cette pratique, de cet art aussi. Dans quelle mesure est-ce que la BD pour vous, mais aussi l'art en général, ça a un rôle citoyen? Zep.
Moi, je me sens raconteur d'histoire. J'aime raconter des histoires marrantes, tristes, effrayantes, érotiques, peu importe. Mais j'aime raconter des histoires. Et je me rends compte, parce que je suis aussi un grand consommateur d'histoire, que j'apprends beaucoup de choses par la fiction. On est différent à la sortie d'un livre que quand on l'a commencé. Généralement, hein, si ça a marché, si on a réussi une autre affaire. Je peux pas dire la même chose quand j'écoute le journal d'information. Je sors pas différent qu'au début. Je suis informé, mais pour finir, ça ressort très vite de ma tête.
Quel genre de citoyen est-ce que vous êtes, vous?
Oh, je suis un citoyen assez intérieur, disons.
Un citoyen suisse.
Je suis un citoyen suisse, c'est-à-dire que j'imagine plein de choses, je trouve qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas, mais enfin, je vais pas aller foutre le feu au Parlement pour dire que je suis pas d'accord. J'ai jamais eu cette manière-là, mais même quand j'avais 20 ans, j'étais un punk assez tranquille, en fait.
Un citoyen suisse. Et pourtant, pas l'ombre d'un alpage, pas l'ombre d'une marmotte ou d'une vache violette dans The End Zep. Vous nous emmenez en Suède. Pourquoi la Suède, d'ailleurs?
La Suède, ça a quelque chose. J'aurais pu le faire en Suisse, hein, cela dit. Je trouvais que ça a quelque chose de rassurant, la Suède. C'est joli. Il peut rien nous arriver en Suède. Enfin, c'est tellement beau. La nature a l'air complètement bienveillante, tranquille. Il fait un peu froid. On est isolé, parce que pour le coup, c'est très, très désert, cet archipel au sud de Stockholm. Donc, j'avais envie de dessiner des beaux endroits avec des beaux arbres.
Et c'est intéressant que vous parliez de nature, parce que dans cet album, c'est aussi vrai dans d'autres. Vous dessinez pas du tout la nature et même vos personnages de la même façon que dans Titeuf, par exemple. C'est comme s'il y avait toujours eu plusieurs veines dans votre travail, Zeb. Combien de façons de dessiner est-ce que vous avez?
Pour moi, c'est toujours la même. Enfin, c'est le même regard, c'est la même main. Mais après, je prends des outils différents parce que j'ai envie de raconter d'autres histoires. Et je me rends compte que pour raconter ce genre d'histoire un peu plus grave, mon dessin de Titeuf fonctionne pas.
Et vous avez la même liberté à chaque fois?
Je dirais que ce dessin est un peu plus libre parce que le dessin de Titeuf, il vient de la bande dessinée. C'est vraiment le dessin d'un enfant fan de BD qui a appris la BD en recopiant depuis que je suis tout petit. Et donc, petit à petit, à force de copier plein de bandes dessinées et de voler des morceaux d'ADN à tous les styles possibles, j'ai constitué une espèce de style qui est le mien. Alors que Diane, c'est un dessin beaucoup plus tardif, c'est adulte. Et je me suis dit, j'ai envie de dessiner quelque chose de plus réaliste. Mais je vais pas partir de la bande dessinée, je vais partir du réel. Donc, je vais dessiner mes personnages. Sont des personnes réelles à qui j'ai demandé de poser pour moi. Je vais dessiner les lieux sur place. Donc, je suis allé sur une petite île déserte dans les fjords de Suède. C'est vraiment un dessin d'observation. Donc, il a quelque chose de plus fragile, mais d'un peu plus libre que mon dessin humoristique.
La question que je me pose en vous entendant, c'est de savoir si un jour vous vous lasserez de dessiner ce petit bonhomme avec une grande mèche blonde.
Ben, franchement, après 25 ans, j'en ai pas marre. J'aime bien. Il est tellement simple. Et c'est quelque chose qui était un tout petit peu prémédité. C'est-à-dire que jamais j'aurais imaginé que ce personnage vivrait aussi longtemps et qu'il aurait ce succès-là. Mais quand j'inventais des personnages, je me disais, attention, fais-les suffisamment simples pour que, même si ton dessin évolue, ça ne soit pas une barrière et tu sois pas en train de te dire, mon Dieu, pourquoi j'ai inventé un personnage avec autant de lacets ou autant d'écailles sur sa peau? Parce que ça, c'est un cauchemar.
Celle qui se lasse de tout. Dans cette émission, vous la connaissez peut-être, Zep, c'est la culture et son actualité, reine de la zapette, impératrice des indécis, princesse volage. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 23 avril?
Être auteur, c'est un métier. Quand on leur demande de faire des prestations, il me paraît légitime qu'ils soient rémunérés.
bouquins garnis. C'est aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur créée par l'UNESCO en hommage à Cervantes et Shakespeare, disparus tous les deux le 23 avril 1616. Autour du thème « Lis-moi mes droits », l'UNESCO a prévu d'organiser des ateliers, des rencontres, des lectures toute la journée. Problème, aucune rémunération n'est prévue pour les auteurs participants. Un mois après le Salon du Livre Paris, le mouvement Paye ton auteur dénonce une nouvelle injustice. Hashtag soutien.
Mini-moi, où es-tu ? Ah, t'es là. Tiens bon, Mini-moi. Tu sais, s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je ferais.
Mini-Me, grande tristesse, l'acteur américain Verne Troyer, mondialement connu pour avoir incarné Mini-Moi dans le film Austin Powers, est mort ce week-end. Il avait 49 ans. Le comédien qui mesurait 81 cm était depuis le milieu des années 90 l'une des superstars de l'industrie du cinéma. En plus d'Austin Powers, il avait tourné dans l'incontournable blockbuster tels que Harry Potter, Le Grinch ou Men in Black, Peace.
C'était vraiment un déchirement. Et la grosse peur que nous avions, c'est qu'il soit fondu et donc qu'il disparaisse et qu'il n'y ait plus possibilité de le revoir.
Oh, le cœur, une semaine après son vol retentissant au musée d'Aubray à Nantes, l'inestimable reliquaire d'Anne de Bretagne a été retrouvé par la police ce week-end. Datant du XVIe siècle, cet écrin en or, chef-d'œuvre d'orfèvrerie, avait accueilli le cœur embaumé d'Anne de Bretagne, dernière duchesse souveraine de la région et reine de France par deux fois. Le trésor breton devrait retrouver sa place au musée après le renforcement des mesures de sécurité qui l'entourent. Tout écrin qui finit bien. Tu l'as ? Vous l'avez ?
J'adore ce festival. Je trouve que c'est un festival formidable pour le cinéma français.
Always Kolkhoa, le plus grand festival du film français au monde. Kolkhoa débute aujourd'hui sa 22e édition à Los Angeles avec Mélanie Laurent en invité d'honneur. L'événement met près de 75 films en compétition. Ce soir, c'est La Promesse de l'Aube d'Éric Barbier qui fait l'ouverture des festivités, tandis que dans la foulée, on y attend notamment Cédric Kahn et Sa Prière, Albert Dupontel pour Au revoir là-haut et une projection anniversaire pour les 20 ans du Dîner de cons. Bref, que du bon. Et Zep, invité de Boomerang ce matin pour The End, sa nouvelle bande dessinée qui sort dans deux jours. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Ce qui frappe dans cet album, c'est la façon dont vous dessinez la nature. Où est-ce que vous avez appris à la dessiner, d'ailleurs, la nature ?
Dans la nature. J'ai appris à la dessiner en l'observant, en fait.
Déjà tout petit ?
Non. Non, parce que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, ce qui m'intéressait, c'était uniquement de dessiner des personnages. Et comme beaucoup de dessinateurs, quand j'ai dû mettre des décors, c'était assez simple. C'est-à-dire que je dessinais mes personnages et derrière, je dessinais une ligne qui était censée figurer l'horizon. Et s'il y avait un immeuble, je dessinais un morceau de mur. Je me disais, bon, mais les lecteurs comprendront qu'en fait, c'est une tour de 40 étages en flammes. Mais j'avais pas envie de dessiner ni l'architecture, ni la nature.
Donc un sentiment de nature s'est créé petit à petit dans votre approche graphique, dans votre imaginaire.
En fait, c'est un sentiment de vide, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. il manquait beaucoup de choses dans mes cases. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime dessiner en premier? Et je me suis acheté des carnets de croquis et je suis allé dessiner dehors, dans la rue. Alors j'ai commencé en voyage parce que c'était plus intéressant de dessiner l'exotisme. Et puis après, j'ai vraiment pris goût et j'ai développé cet exercice de l'observation qui est vraiment génial, qui devient pour moi une nécessité. C'est-à-dire que j'aime dessiner les gens, sans forcément qu'ils voient que je suis en train de les dessiner. J'aime dessiner dans la rue, j'aime dessiner des morceaux de monde autour de moi.
Ça veut dire en tout cas que vous dessinez toujours d'après nature.
Alors, pas dans mon dessin humoristique. Enfin, après tout ça, est stocké quelque part dans ma tête. Mais quand j'ai mon dessin réaliste, j'utilise vraiment ce dessin d'observation. Et puis, je suis obligé de continuer à apprendre à dessiner comme ça. C'est ma manière d'apprendre.
Vous avez dit souvent que c'est en lisant des BD, en recopiant les dessins que vous avez appris à dessiner. Par exemple, qu'est-ce que vous avez appris à dessiner avec Tintin ?
Tintin, j'ai toujours admiré la rigueur d'Hergé et j'ai toujours aimé lire Tintin, mais ça m'a jamais donné envie de dessiner. Parce que c'est pas un dessin très, c'est méchant ce que je veux dire, c'est pas un dessin très généreux, mais en fait, Hergé, il a une espèce de rigueur, c'est-à-dire qu'il dessine tout ce qui est utile et il a inventé cette ligne claire qui est implacable. Et qui est vachement intelligente, parce que c'est vrai qu'on fait de la bande dessinée, on fait pas une exposition de peinture, donc on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on sait faire, mais il faut raconter de manière efficace notre intrigue. Donc on va dessiner tout ce qui est utile à notre intrigue. Et on le voit avec des dessinateurs d'aujourd'hui, comme Bastien Vivès, par exemple, qui est un dessinateur magnifique. Son dessin peut devenir extrêmement dépouillé, alors que c'est un immense dessinateur, mais il va pas montrer chaque fois tout ce qu'il sait faire. On fait de la BD, on raconte une histoire en premier lieu.
Dans Astérix, une chose.
Alors Astérix, justement, là, ça donne envie de dessiner. Le dessin est truculent, on sent qu'il y a du plaisir à dessiner. Moi, je suis toujours fasciné par la bouffe dans Astérix, parce que c'est vachement dur. Dessiner un steak, mais c'est le truc le plus dur du monde, quoi. Et c'est pas pour rien que les peintres ont souvent fait des natures mortes où ils dessinent de la bouffe, parce que, bon, déjà parce que ça bougeait pas, donc c'était plus facile, mais aussi parce que c'est assez fascinant de rendre en dessin quelque chose d'appétissant, vachement compliqué.
Dans Blueberry.
Ah putain, Blueberry dessine super bien les mecs mal rasés. En fait.
Et aujourd'hui, de qui ou de quoi est-ce que vous apprenez, Zep? Vous avez cité Bastien Vivès?
Ben oui, enfin de la bande dessinée en général, mais c'est moins apprendre le dessin, c'est plus parce que tout à coup quelqu'un va utiliser des nouveaux codes narratifs ou une forme d'abstraction inattendue, et puis je me dis tiens, c'est vrai, c'est vachement intéressant. Donc on est vraiment dans une période hyper intéressante de la bande dessinée, un nouvel âge d'or, moi je trouve, parce que c'est très très riche.
Vous pensez à qui là, en particulier?
Pas quelqu'un en particulier, mais on va avoir des gens comme Tom Gold en Angleterre qui font des choses très très abstraites, Bastien Vivès qui c'est une nouvelle forme de réalisme. On a de nouveau des grands dessinateurs réalistes comme Dominique Bertaille, Ralph Meyer qui font cette bande dessinée très académique mais magnifique. Ça avait un peu disparu. On avait un peu honte d'en faire. On était devenu à cette nouvelle bande dessinée qui était beaucoup plus croquis, plus enlevée. Des gens comme Emmanuel Guibert. Je trouve qu'il y a aussi de nouveau des grands raconteurs d'histoire aussi, des gens qui font des longs récits magnifiques comme Guy Delisle qui est pas forcément un grand dessinateur mais qui a trouvé une formule dans son dessin pour nous emmener dans des histoires absolument géniales. Donc cette pluralité, elle existait pas du tout il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou il y a 50 ans dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la bande dessinée. Ce qui est plutôt rassurant parce que si on se dit que l'âge d'or de notre métier il était il y a 50 ans, ça veut dire que ça sent méchamment le sapin.
Vous entendant, Zep, j'ai l'impression d'entendre un auteur de BD littéraire, alors que tout le monde sait que vous êtes un auteur de BD rock'n'roll. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que ce goût pour le dessin, il s'est développé en parallèle d'une passion pour la musique. Est-ce que vous faites un lien, vous, entre musique et dessin?
J'ai toujours aimé faire les deux choses et franchement, la vie a un peu décidé pour moi, c'est-à-dire que
décidé pour moi,
ouais, a dessiné mon destin. C'est-à-dire que clairement, j'étais plus doué pour le dessin que pour la guitare, mais je continue à jouer dans des groupes avec beaucoup de plaisir.
Et en écouter pendant que vous dessinez?
En écouter, ouais, beaucoup. Bah là, par exemple, dans cet album, j'ai beaucoup écouté les Doors parce que c'est un peu la bande son de l'album.
Et le scientifique étudie effectivement les arbres dans The End et écoute les Doors.
Écoute les Doors. Et j'aimais bien ce paradoxe. Parce que c'est un vieux sage à qui j'ai donné les traits justement du professeur Francis Allais. Et c'est marrant de voir un savant avec une image assez, assez sérieuse, presque austère, et se dire qu'il a été un rebelle qui écoutait Jim Morrison. C'est vrai, aujourd'hui, le rock, c'est devenu une musique de senior, donc c'est assez marrant, ce paradoxe. D'ailleurs, on est tous un peu stupéfait, on voit les Stones sur scène, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent, enfin est-ce que c'est logique d'être en collant léopard à 75 ans? Et en même temps, moi je serais le premier d'être vraiment triste et malheureux le jour où ils vont annoncer qu'ils arrêtent.
Votre groupe de rock est idéal, Zep, il ressemblera à quoi? Comment vous l'imaginez?
Bah, ce serait un groupe de rock qui se renouvelle, en fait. Ce qui est pas tellement le cas, en fait. Souvent, un groupe de rock, il a tendance à vivre sur des acquis. On peut pas dire que les Rolling Stones soient énormément renouvelés ces 40 dernières années. Moi, mon artiste favori, c'est Bob Dylan.
Parce que justement, Bob Dylan.
C'est Bob Dylan qui continue à se renouveler. Mais je pense que c'est des entités tellement fortes que les gens qui jouent avec lui sont des musiciens, mais ils ont pas une part créative très très forte.
Et quel style vestimentaire est-ce qu'ils auraient? C'est important, plutôt biker, plutôt punk, plutôt naturiste? Il faut qu'on puisse visualiser.
Hein, ah, naturiste, ça c'est intéressant. Je suis pas sûr qu'on ait envie de voir les Rolling Stones tout nus aujourd'hui,
non.
En fait.
Non, je pense surtout à cette heure-là.
Ouais, je pense que le celui qui a tout compris, en fait, c'est Jack White. Oui. Jack White, il s'est toujours habillé comme un vieux, et du coup, il va bien vieillir. Alors que c'est vrai que tous les autres, regardez Ozzy Osbourne, c'est quand même vachement embarrassant de le voir aujourd'hui, non?
Surtout dans son show réalité.
C'est atroce. Enfin, on se dit, il y a un moment, il faut dire mec, quand il a 80 ans, il faut plus teindre les ongles et se promener en string. C'est affreux. C'est plus du rock'n'roll, ça devient des films d'horreur.
Ouais. Coupe de cheveux, justement.
Ah, coupe de cheveux, je préfère qu'on évite ce sujet. C'est un sujet douloureux.
Pour moi aussi, c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'on a nos propres obsessions. Est-ce qu'il y aurait une chanteuse dans le groupe?
Le truc qui me fascine dans le rock aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à faire du rock dans les années 70, c'était très dur de trouver des filles. Il y avait que des mecs qui voulaient jouer dans les groupes, et de temps en temps, on trouvait une fille qui acceptait de chanter, mais généralement, il fallait la supplier tout au long de la répète pour qu'elle accepte de chanter dans le micro. Alors, non seulement ça a complètement changé, il y a plein de chanteuses maintenant, mais il y a aussi plein de groupes de filles.
Moi, je veux qu'il y ait une femme dans notre groupe de rock, Zep. Alors, on va la trouver, la plus rock'n'roll, la plus belle, la plus grande. Joni Mitchell, évidemment, qui chantait en 1970 sur l'album Ladies of the Canyon, la plus belle chanson qui soit. Une chanson de nature, justement, et d'une douceur infinie, une douceur du lundi, The Circle Game. Vous êtes sur France Inter avec Zep. Vous écoutez Boomerang.
Yesterday, a child came out to wonder. Caught a dragonfly inside a jar. Fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go. Child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like "when you're older" must appease him, and promises of someday make his dream. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again. In the circle game.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire que bêtement, on s'attend toujours à ce qu'il ait une mèche blonde dressée sur la tête, mais en fait non. Il a les cheveux légèrement bouclés, grisonnants, coupés courts, même si on n'a pas trop le droit d'en parler. L'œil rond et bleu, la bouille débonnaire, toujours un petit peu interloquée, du rêveur du fond de la classe, printanier à souhait. Ce matin, chemise bleue déboutonnée au col, pantalon clair, souliers souples, prêt pour un pique-nique au bord du lac de Genève. Zep, invité de Boomerang pour The End, l'histoire d'un drame planétaire qui se prépare et qui est lié aux arbres qui communiquent entre eux. On a parlé de votre dessin. Mais on n'a pas encore parlé de couleurs, Zep. Quelle utilisation est-ce que vous faites de la couleur dans cet album, dont les planches sont tantôt bleues, grises, roses ou vertes ?
J'utilise la couleur en fait comme chapitrage de mon livre. C'est-à-dire, chaque séquence a une dominante couleur. Ça m'évite de mettre des récitatifs du genre pendant ce temps, le lendemain, on change d'ambiance colorée, donc on comprend qu'on a changé de séquence. Et puis je fais une mise en couleur assez sobre parce que j'ai un dessin qui est assez chargé, enfin j'ai tendance à mettre beaucoup de détails. Mon dessin est comme ça en fait. J'ai pas choisi, je vais faire plein de détails, mais par exemple, bon là je vais vous montrer une page avec des arbres, donc
page
ça va,
57.
Elle respire bien, mais par exemple quand je dois dessiner des choses qui me fascinent peut-être un peu moins, du genre des étagères dans le laboratoire, moi je suis obligé de dessiner toutes les petites fioles, les bouteilles dessus, je dois regarder dans quel sens se visse le couvercle, parce que j'ai vraiment un dessin comme ça qui se doit d'être précis.
Mais cette planche, est-ce que vous pouvez nous la décrire, qui décrit un arbre justement?
Alors voilà, là c'est une planche avec des pins sur ces îles suédoises qui sont un peu malmenées par le vent, donc ils ont des formes extrêmement étranges.
Il a l'air un peu tourmenté cet arbre.
Ils sont tourmentés. Il y a toujours, en plus, les pins dans ces endroits, ce qui est très beau, c'est que des branches meurent, d'autres partent, donc il y a à la fois du vivant et du mort sur le même arbre. Et j'aimais bien, j'avais envie de dessiner celui-là parce qu'il annonce effectivement une nature à la fois vivante, bienveillante, mais on est aussi dans une histoire de mort. Enfin, on est dans une histoire qui, en fait, ces chercheurs observent la nature et vont se rendre compte progressivement que c'est la nature qui les observe. Et il y a un dérèglement de la nature. Il y a plein de petits signes étranges qui viennent de plus en plus, des choses dans la végétation, des champignons, des taux de pollution inattendus, les animaux qui ne calculent plus les humains.
Et cet arbre, il existe?
Cet arbre existe, ouais, je l'ai dessiné, il est sur cette île.
Je vous pose la question parce que les visages de vos personnages, ils existent aussi. Vous le dites au début de l'album.
Oui, j'utilise toujours enfin, je me suis rendu compte que c'était vachement mieux pour mon dessin de demander à des gens de poser pour moi.
Et comment est-ce que vous faites? Vous faites un casting, Zep?
Ouais, je fais un casting, ouais, comme un film. C'est-à-dire que je dessine mon histoire, je fais mon storyboard, comme du cinéma. Et après, je me dis, tiens, qui je prends? Alors, je commence à faire un listing pour dire, là, c'est qui serait bien. Puis bon, après, c'est un petit peu comme au cinéma. C'est-à-dire que je vais demander à des copains, j'étais d'accord de poser pour moi, pour tel personnage, et voilà, ils acceptent ou ils n'acceptent
pas. Mais moi, par exemple, mon visage, il vous intéresse pas?
Ah ben si, peut-être que vous serez dans un...
Le mec qui piège ses invités.
Le prochain personnage.
Vous savez que c'est mon rêve de devenir un personnage de
bébé. Ah ben, on peut essayer.
En me regardant là, comme ça, quelles aventures rocambolesques, botaniques ou sexuelles, qui sait ce que vous m'imaginez. Vous êtes tout à fait libre. Zep, c'est une carte blanche matérialisée dans la feuille blanche qui est sous vos yeux. La dernière fois que vous étiez venu, vous nous aviez dessiné quelque chose. Vous étiez représenté avec un boomerang planté dans le crâne, en train de dire merci pour le réveil, faites mieux.
Ok, d'accord, bon, quel défi là, waouh. Est-ce que vous voulez que je vous dessine en formule réaliste dans ce dessin-là ou dans un dessin plus humoristique?
Qu'est-ce que vous voulez?
Ah non, mais dites-moi.
Ah bah c'est une carte blanche. Bah, ça dépend de votre tonalité en ce moment, vous avez envie de... Vous êtes plutôt dans l'humour là ou aujourd'hui, ce matin?
Quand on est comme ça, qu'on discute, il y a une forme de légèreté, donc je suis plus dans l'humour, mais...
Restons dans la légèreté alors.
Ouais, parce que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui caractérise un visage.
Alors vous prenez un stylo là.
Si vous devez dire qu'est-ce qui caractérise votre visage, vous diriez quoi?
Mon menton.
Non. Moi, je dirais
mes yeux globuleux.
Ça. Les yeux, ouais. En fait, c'est pas globuleux.
Bah, c'est un peu globuleux,
Zep. Vous avez, des yeux qui sont, un peu genre, je vais bientôt me réveiller, mais c'est pas tout de suite, quoi.
Attention, hein, si c'est pour être dans l'insulte, on est quand même lundi matin, là. Ok. Donc, là, le nez, c'est, je précise aux auditeurs de
le
France
nez, c'est
Inter
sans,
qui
c'est sans
voir,
appel, c'est comme ça, on peut plus l'enlever.
Mais
là,
c'est pas très très sympa. Moi, j'ai rien dit sur vos cheveux, j'ai pas poussé, hein.
Alors les cheveux, bon bah voilà.
Alors, c'est pas parce que votre personnage Titeuf a une houppe de cheveux que vous devez en faire une sur tous les gens que vous dessinez, non, à commencer
je vois
par moi-même. C'est
une coiffure un peu libre comme ça, c'est le port du
casque. Ça s'appelle
l'âge.
la coiffure un peu libre. Mais alors dans quelle situation est-ce que je me trouve là?
Alors pour le moment, ben je vais vous faire en situation réelle avec votre micro et non, je vais enlever le casque parce que c'est pas très graphique ce casque.
Vous pourrez pas dire autre chose. Alors vous m'avez fait un menton très en avant.
Il est un peu en avant.
C'est pas grave, hein.
C'est joli, hein.
Je vais en profiter pour remercier
un côté, par exemple,
mes parents.
Voilà.
Non, mais c'est Claude Berry qu'on remercie voilà, souvent dans les moments de...
Les mentons comme ça, c'est bien pour faire du western.
Oui. Ouais. Par exemple.
C'est un menton de...
Je sais pas si j'aime cet exercice, Zep, somme toute.
Ah, c'est vous qui avez voulu, hein. À la radio.
Ne me plantez pas un boomerang dans le front comme vous l'aviez fait la dernière fois que vous étiez venu.
Ça fait quand même quelques temps que j'avais fait ce dessin. Hein.
C'était il y a 800 émissions, Zep.
Il y a 800 émissions, donc après 800 émissions, je vais faire le...
Ah bon, on a changé,
le retour, hein, du boomerang.
On a perdu quelques cheveux, on a...
Vous dites « on » parce que...
À tous les deux.
Je vous remercie de le rappeler à vos auditeurs.
C'est important, qu'est-ce que vous voulez. Ah, il y a un boomerang,
il
est toujours là.
Le boomerang est revenu.
Et c'est moi, effectivement, c'est moi qui l'ai saisi, c'est ça, et je vous le renvoie.
C'est ça, pour dans 800 émissions, on se retrouve.
Pour dans 800 émissions, et on se dira quoi?
Ah bah, on verra ça dans 800 émissions.
On se dira Zep, c'est écrit en bas de ce dessin que les auditeurs de France Inter peuvent voir sur nos réseaux sociaux et sur le site de France Inter. Évidemment, remarquable au cours de dessin, c'est l'imagination au pouvoir. Vous pouvez le voir effectivement à la page de Boomerang ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci Zep d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que The End est publié aux éditions Rue de Sèvres et sort dans 2 jours. Et aussi que vous serez au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens les 2 et 3 juin prochains. À vos agendas, tout de suite les médias, juste après ça.
Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondus. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Dès le début la vie a pris. Et la lumière donnait à plein. c'était brutal et froid aussi. La peau bleuissait dans le bain. Quand c'est parti à toute allure, certains ont réduit la voilure, d'autres ne savaient pas freiner. Et tant d'arbres s'en sont mêlés, aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aux baies crépuscules confondues et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre. On n'avait qu'à se décider pour en prendre une et l'adopter et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés se côtoyaient perçant la brume. Vacants de quart en quart de lune, rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aux baies crépuscules confondues et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus.
Aujourd'hui n'existe plus, Dominica sur France Inter. Et tout de suite, Sonia De Villers, les médias, elle existe bien. Sonia, elle revient de papette.
J'ai fait la blague
quand vous n'étiez pas là, vous me connaissez,
c'est ça,
par
mais
aigreur.
Oui. Un petit peu moins de cheveux, mais toujours autant d'humour et de plus en plus de talent.
Ok, Sonia.
C'est vrai.
À demain.
Salut, ciao.